20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec le baryton Stéphane Degout que nous passerons un petit moment ce soir. Stéphane Degout qui vient de nous offrir un magnifique album qui nous plonge dans le monde fascinant des légendes nordiques. Stéphane Degout qui en ce moment, du moins dans une petite demi-heure, chantera Malheur avec l'Orchestre de Paris et Jukka-Pekka Saraste à la Philharmonie, un concert qui sera redonné demain soir. Avant cela, avant d'écouter Stéphane Degout nous parler de sa riche actualité, intéressons-nous à quelques autres événements de l'actualité musicale. Adam Fischer vient d'être prolongé à la tête de l'Orchestre symphonique de Düsseldorf, comme on l'apprend grâce au site Res Musica. Le chef hongrois, frère aîné d'Ivan Fischer, avait été nommé chef principal de cet orchestre en 2015. L'aventure se poursuivra donc jusqu'à 2025 au moins. Le Théâtre du Châtelet vient de dévoiler sa nouvelle saison, la saison 2020-2021. Une saison, nous annonce-t-on, composée de spectacles créés avec et pour le Grand Paris. C'est d'ailleurs à Pantin qu'elle a été révélée hier. Des créations et des reprises, dont certains spectacles créés grâce à des ateliers en Seine-Saint-Denis. Alors en ce qui concerne la programmation purement musicale, on retiendra notamment le retour de la comédie musicale 42e rue qui avait été créée il y a 4 ans au Châtelet. La reprise du merveilleux spectacle de Robert Lepage qui avait enchanté le Festival d'Aix-en-Provence en 2010, Le Rossignol et autres fables autour de la musique de Stravinsky. Et c'est Daniele Rustioni qui dirigera ce spectacle avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Également à l'affiche, les variations Goldberg de Bach par le pianiste Pavel Kolesnikov sur une chorégraphie d'Anne-Thérèse de Kersmacher. Un spectacle autour de l'œuvre de Thomas Mann, Mort à Venise, mise en scène et en musique, sous la houlette d'Ivo Van Hove, ou encore une passion selon Saint-Jean de Bach, dans une mise en scène que l'on nous annonce radicale et contemporaine de Calixto Bieito, et puis le récent opéra Lessons in Love on Violence, dans lequel d'ailleurs Stéphane Degout avait fait merveille il y a quelques mois, l'année dernière, récent opéra de George Benjamin, dans la mise en scène de Katie Mitchell, qui sera donc repris la saison prochaine au Châtelet. S'ajoutent à cela des concerts itinérants et participatifs à travers la capitale ou encore la reprise des déjeuners-concerts avec l'Orchestre de Chambre de Paris.
Laure Maison sur Radio Classique.
Paris, dont les grandes universités, les grands lieux de savoir, ouvrent leurs portes au public pendant un mois, à partir de vendredi jusqu'au 2 avril, à l'occasion de la nouvelle édition, la 5e, du Festival de Printemps PSL, festival de musique que dirige le pianiste et chef d'orchestre Johan Fargeau. Il nous en dit justement quelques mots ce soir.
L'université PSL, c'est la réunion de grandes écoles tout aussi prestigieuses de la place parisienne. Il y a notamment l'école normale supérieure, Dauphine et j'en passais des meilleurs. Il y a 25 écoles à peu près. C'est un esprit de transversalité. L'esprit scientifique rejoint la musique et aussi un esprit de parrainage. C'est-à-dire qu'on a des artistes très prestigieux qui vont se mélanger, passez-moi l'expression, à des étudiants, à des gens qui font de la musique de façon moins confirmée.
Voilà, puis avec une dimension internationale cette année, puisque une partie des concerts aura lieu à Londres.
Absolument, on est très fiers de ça. Alors, non seulement on se délocalise, parce qu'effectivement, le petit chœur Paris Sciences et Lettres que je dirige va partir à Londres, mais aussi Londres vient à nous, parce qu'il y aura des choristes de l'université de la City qui vont venir participer au concert du 31 mars, la Walpurgisnacht, au grand amphithéâtre de la Sorbonne avec l'orchestre et chœur. Et puis aussi un chœur israélien, le chœur du conservatoire de Tel Aviv, qui va venir aussi participer à ce concert.
Alors vous le disiez justement, Johan Fargeau, la jeunesse est naturellement à l'honneur dans le cadre de ce festival. La jeunesse, les étudiants, ceux qui constituent le chœur et l'orchestre PSL que vous dirigez, mais aussi de jeunes musiciens, les élèves de l'Académie Philippe Jaroussky qui seront associés à l'événement cette année.
Oui, c'est vrai. En fait, ça fait maintenant 2 ans. L'année dernière aussi, une jeune violoniste, Manon Galli, était venue participer à nos concerts. Là, c'est cette année, le 6 mars, au Conservatoire National d'Art Dramatique, supérieur d'art dramatique, qui est un lieu d'ailleurs extraordinaire. C'est un théâtre à l'italienne à Paris, et ça vaut le coup de, rien que pour l'endroit de venir. Eh bien, un étudiant de l'Académie Jarouski viendra, Emmanuel Coppet, au violon, jouer la méditation de Thaïs. Et on programme aussi la Symphonie de Franck ce soir-là.
Et puis quelques aînés, des fidèles du festival, le saxophoniste Raphaël Imbert, le pianiste et compositeur Carole Beffa, l'ensemble Contraste et d'autres têtes d'affiche
nouvelles pour cette année. En fait, il y a toujours dans l'esprit du parrainage, c'est vraiment cet esprit-là, c'est une grande générosité de ces artistes. En jazz, on a Hugues Koltmann, qui est vraiment le chanteur de jazz qui explose en ce moment, qui va participer. Alors ça sera au bal Blomet, parce qu'on externalise aussi nos concerts avec le petit chœur et le petit orchestre PSL. Quand je dis petit, c'est la version de chambre. Et puis aussi Stanislas de Barbera qui viendra chanter avec nous, avec deux étudiants du CNSM comme solistes, la Walpurgisnacht de Mendelssohn, le 31 mars au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Voilà, du jazz et de la musique classique, puisque l'une des marques de ce festival de printemps PSL, c'est l'éclectisme, c'est l'ouverture sur un très large répertoire. Quels seront d'ailleurs, aussi bien dans le jazz que dans le classique, quelques-uns des autres moments forts à venir ces prochains jours?
Alors, j'ai mentionné le 31 mars parce que c'est un point d'orgue choral, chœur et orchestre, parce qu'on aura trois chœurs qui vont se mélanger, on aura un grand soliste, etc. Donc c'est vrai que ça c'est un grand événement. Il y a l'ouverture le 6 mars, j'ai mentionné la Symphonie de Franck. Et puis sinon, surtout, je vous invite à regarder la programmation sur l'Orchestre et Chœur Paris Sciences et Lettres. Vous avez tous les concerts, beaucoup sont gratuits d'ailleurs, pour partager cet esprit.
Voilà, puis c'est l'occasion d'entrer dans des lieux dont on n'ose pas forcément ouvrir les portes. Ces universités, ces lieux de prestige qui, pendant quelques jours, ne sont pas réservés uniquement aux étudiants, mais à un très large public, puisque ce festival est ouvert à tous. Hein.
Exactement. Alors, je voudrais mentionner deux endroits qui sont magnifiques. Il y a par exemple la salle Cassini de l'Observatoire de Paris. Ça sera une soirée consacrée à un ensemble du CNSM de Paris, qui est aussi un des partenariats de parrainage dont je parlais. Il y a aussi la salle des colonnes de l'École des Mines. On y va finalement très peu souvent. Il y a un piano et cette salle est aussi vraiment tout à fait digne d'intérêt.
Voilà, donc rendez-vous dans ces hauts lieux du savoir parisien à l'occasion de la 5e édition du Festival de Printemps PSL. Cela commence vendredi et c'est jusqu'au 2 avril. Merci beaucoup, Joanne Fargeau, d'être passée nous voir.
Merci.
Mozart, revisité par Raphaël Imbert et les musiciens de l'ensemble Contraste, le Lacrimosa du Requiem, dans l'arrangement de Joanne Fargeau. Joanne Fargeau, Raphaël Imbert et l'ensemble Contraste qui participeront activement au Festival de Printemps PSL à Paris dès vendredi et jusqu'au 2 avril.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est à la Philharmonie de Paris que j'ai pu rencontrer hier le baryton Stéphane Degout à l'issue d'une répétition avec l'Orchestre de Paris et le chef finlandais Jukka-Pekka Saraste pour un concert qui se tient ce soir, mais se tiendra également demain soir à la Philharmonie. Un concert placé sous le signe de Mahler, avec notamment les chants d'un compagnon errant. Et cela, tandis que vient de paraître chez Harmonia Mundi un merveilleux album, nouvel album de Stéphane Degout, empreint de mystère, de drame, de fantastique même, sous le signe des légendes nordiques, à travers des leaders et ballades signés Schubert, Loew, Brahms, Liszt ou encore Wolf. Stéphane Degout, dont on connaît l'amour pour le lead et la mélodie, se révèle une nouvelle fois saisissant, témoignant ici d'une grande force dramatique, théâtrale et en même temps d'une vocalité assez différente de celle qui est propre à la mélodie française. Il nous parle justement de ce qui différencie le lied allemand et la mélodie française.
Le lied allemand arrive beaucoup plus tôt dans l'histoire de la musique. On a déjà beaucoup de choses, de matériaux, même à la fin du XVIIIe siècle, qu'on n'a pas en France. En France, ça arrive vraiment avec Berlioz, ses Nuits d'été. Sinon, avant, c'était des romans, c'était des choses jolies, comme ça. Derrière cette espèce de simplicité musicale du lied allemand, Schumann, Schubert, et puis plus tard, Wolf, Brahms, etc., on a une incroyable profondeur psychologique, disons, n'ayons pas peur des mots. On est dans des sphères de poésie qui sont très différentes de la poésie française, justement. On va direct à l'image, et en particulier, puisqu'on parle de ce disque, les ballades, où là, on est dans un domaine complètement théâtral. Et dans la mélodie française, on est plus dans une recherche de marier le mot à la musique, faire sortir du mot sa propre musique, faire parler la musique, vous voyez, avec autre chose que des mots et des paroles. Après, oui, l'approche vocale est différente, évidemment. Je ne saurais pas vous dire exactement comment, mais parce qu'à l'intérieur de ça, chaque compositeur a aussi une approche vocale différente. Brahms, ce n'est pas Schumann, et c'est encore moins Wolf, etc. Chaque compositeur a sa patte, chaque époque aussi a une façon de traiter les choses différentes, etc.
Es war ein König in Thun, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab, einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt in jeden Schmaus. Augen gingen ihm über, so oft trank daraus, so oft trank daraus. Und als kam zu sterben, zählt seine Städte im Reich. Gönnt alles seinen Nerven, den Becher nicht zugleich. Gönnt alles seinen Nerven, den Becher nicht zugleich. Hier saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her. Auf hohen Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Dort stand der alte Zechel, trank letzte Lebensblut und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut. Hinunter in die Flut. Ihr seid stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten im See. Trank nie einen Tropfen mehr. Trank nie einen Tropfen mehr.
Alors vous chantez Goethe, la légende du roi de Tulé, mise en musique par Liszt. Vous chantez Heine, vous chantez Eichendorff, Stéphane Degout, dans ce magnifique album qui vient de paraître chez Harmonia Mundi avec le pianiste Simon Leper. Vous chantez des leaders, vous chantez des ballades qui nous plongent dans ce monde de légendes nordiques, dans les brumes. Il y a des châteaux en ruine, il y a des chevaliers, il y a des rois. On sent chez vous le conteur, le narrateur, lorsque vous interprétez ces pages.
Oui, la ballade, c'est exactement ça. On raconte des histoires. On n'est pas des personnages, on décrit pas des sentiments, on parle pas d'amour. Enfin, on en parle, mais je veux dire, sans le vivre soi-même, on est vraiment narrateur. Et effectivement, ce sont toujours des histoires. Il y a cette mythologie du Nord, il y a aussi des histoires bibliques, comme Belshazzar. Il y a plein de choses comme ça qui appartiennent à une mythologie, des histoires qu'on se raconte au coin du feu, qu'on raconte aux enfants, etc. Je sais pas, ça fait appel à une autre façon de raconter, sans interpréter un personnage. Parce que dans d'autres leaders, dans Dichter Liebe, par exemple, de Schumann, que je suis en train de travailler, on est une seule personne au travers de ces 16 mélodies. La bonne chanson de Fauré, c'est la même chose. C'est un seul narrateur, c'est une seule personne qui décrit ses sentiments et son voyage à travers tous ses sentiments. Là, ce sont des petits tableaux décrits avec beaucoup de précision, de façon très succincte, très directe et extrêmement évocatrice dans la musique. Je pense au Feuerreiter, le Chevalier du Feu de Wolf, où le chanteur doit raconter avec des mots, mais c'est le pianiste qui fait le paysage autour et qui crée l'image, et c'est cinématographique des fois. On entend le moulin s'écrouler, dans le piano on entend plein de choses. Dans le roi de Tulé, on entend la coupe qui tombe dans l'eau, enfin c'est toujours très imagé comme ça, très fort.
Il y a quelques personnages tout de même, puisque vous êtes le narrateur ici, Stéphane Degout, mais il y a quelques dialogues. Vous incarnez aussi différents personnages sur certaines de ces ballades.
Oui, bien sûr, il y a le personnage de Édouard, qui est une ballade écossaise. L'histoire d'Édouard, c'est sa mère lui demande pourquoi son épée est rouge de sang. Et donc, il dit d'abord qu'il a tué son cheval, qui ne voulait plus avancer, ensuite son aigle, et puis finit par avouer qu'il a tué son père. Et à la demande de sa mère, c'est ça qui est horrible, et elle lui demande finalement ce qu'il va faire. Donc il veut partir sur la mer, il veut abandonner sa maison, ses enfants. Et là, le moment le plus terrible, c'est quand elle lui demande ce qu'il va faire de sa mère, et qu'il lui répond qu'il l'a maudit. Mais de la pire des façons, et c'est un moment où c'est à la limite du hurlement dans cette musique, c'est tellement fort.
Was soll werden aus Weib und Kind, Edward, Edward? Und was soll werden aus Weib und Kind, wann du gehst übers Meer? Die Welt ist groß, ja, sie betten drin. Mutter, Mutter, die Welt ist groß, lass sie betten drin. Ich seh sie nimmer mehr. Was soll deine Mutter tun? Edward, Edward, und was soll deine Mutter tun? Mein Sohn, mein Sohn, da was sei er mir? Ihr Fluch Hölle soll auf euch ruhen, Mutter, Mutter. Der Fluch der Hölle soll auf euch ruhen, denn ihr rettet mir.
Alors on retrouve cette légende d'Edward dans votre album, Stéphane Degout, enregistré avec le pianiste Simon Leper. Edward, dans cette sublime, saisissante version de Karl Löwe, il y a une autre version d'Edward, celle de Brahms, à deux voix cette fois-ci, qui fait intervenir des personnages chantés par deux chanteurs différents, c'est avec Felicity Palmer. Edward qui a également d'ailleurs inspiré une ballade pour piano à Johannes Brahms, donc c'est un personnage qui a fasciné les romantiques. Vous chantez ces leaders et ces ballades, tandis que vous chantez en ce moment avec l'Orchestre de Paris, d'autres leaders avec orchestre cette fois-ci, les chants d'un compagnon errant de Gustave Mahler. Est-ce que dans ce cycle de Mahler, on retrouve cet univers des contes et légendes ?
Je dirais pas ça, mais on est... À part le premier où qu'il a emprunté à ce fameux opus de poèmes anciens allemands, dans lesquels beaucoup de compositeurs ont puisé pour écrire. Le reste, c'est des textes qu'il a écrits lui-même. Et comme souvent chez Mahler, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait autobiographique, mais qui est de l'ordre de la prémonition. On est déjà, alors qu'il a commencé à écrire ce cycle, il avait 20 ans, on est déjà dans tout ce qui va jalonner son œuvre et sa vie, c'est-à-dire cette espèce de dépression sous-jacente, de Mahler, qui est là pour le coup le mot français, pas son nom, qui est jamais loin, quelque chose qui... proche d'une forme de folie, en fait. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'univers de Schumann. On est dans d'autres sphères, on a une autre façon de raconter des histoires, oui.
Alors, vous faisiez référence à propos des leaders et des ballades à l'importance du piano qui crée le climat. Dans les leaders de Mahler, l'orchestre non seulement crée les climats, mais raconte tout autant les histoires.
Oui, complètement. La façon, la colorisation de l'orchestre, l'instrumentalisation... Il y a beaucoup, beaucoup de très courts solos qui sont donnés au bois, qui sont donnés à un violoncelle, tout d'un coup sur quelques mesures. Tout ça se répond. L'orchestre est jamais plein, jamais à l'unisson. C'est toujours, par contre, à l'unisson de la phrase du chanteur. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi cette phrase est à l'unisson de la clarinette et telle autre à l'unisson des violons, des violoncelles ou de la clarinette basse, des choses comme ça. C'est assez fascinant. Et ça donne, ça colore... le moment, ça colore le mot aussi.
Alors on sent votre amour, Stéphane Degout, pour le genre du lead, qu'il soit avec piano ou avec orchestre. On vous entend également régulièrement dans de grandes productions lyriques, il y en a certaines à venir encore. Vous trouvez un bon équilibre aujourd'hui entre le lead, la mélodie, ce genre plus intime, quoique avec orchestre, il est peut-être un peu moins, et l'opéra?
Oui, j'essaie. C'est toujours difficile, hein. L'opéra prend beaucoup de place, une production ça dure 2 mois, elle s'enchaîne souvent, mais j'essaie toujours de trouver dans mes saisons le temps de faire des récitals et de les faire par série surtout. J'aime pas les diluer comme ça au milieu de production quand j'ai quelques jours de libre. Pour moi, ça a du sens de faire une série de récitals. Et là, en l'occurrence, on en prépare 3, justement avec Simon encore. Et on a fait un programme justement autour de Forêt, de la bonne chanson, Schumann, Dichter Liebe, et on a inclus au milieu de ça un groupe de mélodies de Tchaïkovski, pour la simple et bonne raison que je vais chanter en russe toute la saison. Je fais deux prises de rôle qui sont pour moi très importantes et assez logiques dans le déroulement de ma carrière, qui sont celles de Yeletsky dans La Dame de Pique et Onieguin dans Eugène Onieguin justement. Et je me disais, c'est intéressant d'entrer dans ce répertoire d'opéra en passant par la mélodie, tout simplement parce que ça me permet d'aborder ce répertoire, cette langue, cette musique, seul, sans aide autre que celle du pianiste, mais sans non plus d'obstacle qui serait la mise en scène, ou en tout cas un travail plus long sur les rapports entre les personnages, sur la construction du spectacle, etc. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'entre dans ce répertoire, et en particulier dans cette langue que je ne connais pas du tout, de façon plus personnelle, plus approfondie aussi.
Il y a des couleurs particulières propres à la langue russe qui influent sur votre voix, sur votre vocalité, Stéphane Degout ?
Je pense que oui, je ne saurais pas dire lesquels, mais ce qui m'étonne, c'est le confort dans lequel je suis pour chanter en russe. J'ai travaillé le rôle de Yeletsky là, pendant quelques jours, ses mélodies, et puis Onegin qui arrive, je commence aussi de temps en temps à entrer dedans. Et c'est assez fascinant la place que prend cette langue dans mon appareil phonatoire, on va dire, dans ma bouche, dans mes résonateurs, ma gorge, etc. La place du son est un tout petit peu décalée par rapport à nos langues occidentales qui sont très dans le masque, l'italien, le français en particulier. Et là, on est, on va dire, 2 mm derrière en ce qui concerne la résonance dans les cavités, etc. Et ça donne aussi des sensations un peu inhabituelles. Et puis, il y a quand même encore quelques voyelles qu'on n'a pas du tout dans nos langues, qui sont un peu au fond de la gorge, qu'il faut aller chercher. Alors, ça oblige à un autre chemin. Quoi qu'il en soit, ça correspond vraiment à au baryton que je suis aujourd'hui. Donc, c'est une rencontre et en tout cas un travail très satisfaisant pour l'instant.
On a hâte de découvrir cela. Donc, La Dame de Pique, ce sera en avril-mai au Théâtre de la Monnaie. Eugène Onegin, ce sera où ?
Ce sera à Toulouse en janvier prochain.
Et puis on pourra vous entendre d'ici là au mois de novembre à l'Opéra Comique, où vous retrouverez Raphaël Pichon pour chanter Rameau, donc Hippolyte Arici, d'autres couleurs vocales.
Oui, complètement. Là, on est encore dans une forme de... Je dirais pas de parler chanter, mais on n'est pas loin non plus de cette déclamation dont on parle beaucoup en langue française. Moi, j'aime beaucoup Rameau et j'aime beaucoup cette musique du XVIIIe siècle. Là, je viens de terminer une production d'Iphigénie Antoride à Zurich, parce que le traitement du texte, il est encore fondamental dans ce répertoire. On a un peu perdu au XIXe siècle. On le retrouve justement dans la mélodie, parce que les poètes comme Verlaine, Baudelaire se sont remis à travailler le texte comme un matériau, comme quelque chose de brut. Et évidemment, on va encore plus loin avec Mallarmé, avec des compositeurs... Oui, j'allais dire compositeurs, c'est un lapsus intéressant. C'est un luxe, le texte, et le travail sur le texte qu'on n'a pas dans toute une partie du répertoire d'opéra au XIXe siècle, qu'on avait beaucoup au XVIIIe, qu'on retrouve avec Debussy, Péléas, etc., Ravel, et puis d'autres plus tard. Pour moi, c'est fondamental aussi dans mon travail, donc je suis très heureux d'y revenir de temps en temps.
Voilà, donc Rameau, Tchaïkovski, le lied allemand, toute une palette de couleurs que vous déployez, Stéphane Degout. Merci infiniment.
Avec plaisir, merci. Monstre affreux, monstre redoutable, quel sort me serait favorable s'il ne m'exposait qu'à tout monstre affreux.
Des efforts qu'on fait pour le détruire, il permet qu'il déchire, et d'intelligence avec lui. Monstre affreux, monstre redoutable. Serait favorable s'il ne m'exposait qu'à vos coups.
Monstre affreux, monstre redoutable.
Stéphane Degout, interprète de Rameau avec Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, un air terrible tiré de Dardanus. Stéphane Degout qui retrouvera Raphaël Pichon et Pygmalion au mois de novembre à l'Opéra Comique pour Hippolyte et Aricie. En attendant, il chante Mahler ce soir et demain soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris et Jukka-Pekka Saraste, et il nous ensorcelle avec son nouvel album dédié aux leaders et ballades allemands, album sorti chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste Jérôme Pernaud. Très belle soirée que je vous invite à prolonger en musique à l'écoute de Radio Classique avec Francis Drezel.